Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europe 1.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver et de passer un moment avec vous. Jusqu'à 14h, on va écouter Le Monde changer. Un monde qui vit encore largement au rythme du coronavirus. Première étape, on sera en Allemagne pour rencontrer un personnage devenu central depuis quelques mois, le professeur Christian Drosten. Il est virologue, c'est l'homme qui murmure à l'oreille de Merkel, celui qui a insufflé la stratégie de lutte contre le virus en Allemagne. Et ce Drosten est un peu devenu une pop star, bien malgré lui. On partira ensuite pour une grande virée à travers l'Europe du Sud, 3000 km avec Jean-Sébastien Soldaini qui, de l'Italie à la Grèce, en passant par les Balkans, a tenté de mesurer le degré de paranoïa qui a traversé ces pays au plus fort de la crise. On sera aussi à Londres et à Bruxelles, où le confinement a eu un effet très positif pour certains SDF ou personnes vulnérables. Logés dans des hôtels à Londres, quand à Bruxelles, c'est une centaine de femmes qui sont accueillies dans un bâtiment du Parlement européen. Expérience extrêmement positive pour beaucoup d'entre elles. Et puis à l'heure du rendu de la copie de la Convention citoyenne pour le climat, qui a travaillé pendant 9 mois pour proposer des solutions aux défis du changement climatique, vous entendrez un militant écologiste de longue date, Rob Hopkins, est anglais, et lui propose un outil essentiel pour changer le monde, notre imagination. Nicolas Carreau viendra nous proposer un super roman britannique, et Joseph Chovanec nous donne rendez-vous au centre-ville. Les carnets du monde sont ouverts et on prend la direction de Berlin.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
L'Allemagne fait figure de modèle dans la lutte contre le Covid-19. Moins de morts, on en dénombre 9000 alors que le nombre de malades est plus important que chez nous. Dès le début, l'accent a été mis sur la nécessité de tester la population aux moindres symptômes et d'isoler les malades. Cette stratégie payante a été orchestré par un homme, un virologue totalement inconnu du grand public jusqu'à cet hiver et qui est devenu en quelques semaines la mascotte de tout le pays tout en réussissant à ne jamais sortir de son rôle de chercheur. Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Cet homme s'appelle Christian Drosten et il a vraiment été l'atout dans le jeu des Allemands face à cette épidémie.
Oui, alors l'Allemagne avait dès le début des avantages très concrets qu'on pouvait quantifier, plus de lits d'hôpital, plus de respirateurs, plus d'argent en général que ses voisins pour faire face au virus. Et puis il y a eu le facteur chance, elle a eu de la chance, elle avait Christian Drosten, le professeur Drosten, qui était déjà connu avant la crise dans le petit monde des virologues internationaux. En 2002 déjà, alors qu'il n'avait qu'une trentaine d'années, il avait décodé l'ADN du virus SRAS et ça lui avait valu la médaille du mérite ici. Bref, une star mondiale des coronavirus. Et donc, dès la fin du mois de décembre, il alerte ses équipes ici à l'hôpital de la Charité de Berlin sur la nouvelle menace qu'il voit monter en Chine à la mi-janvier. Il a mis au point un premier test qu'il présente le 25 à la presse. Et alors, à ce moment-là, il est très très clair. C'est le seul outil dont nous disposons face à ce virus. Il faut identifier le plus vite possible avec des tests les malades pour les isoler. Merkel va suivre sa recommandation et appliquer cette stratégie systématiquement dès les premiers cas constatés avec le succès qu'on connaît.
Et c'est comme ça qu'en quelques semaines, il est propulsé au rang de l'homme le plus écouté d'Allemagne.
Voilà, car en plus de conseiller le gouvernement, dès le mois de février, le quadragénaire ténébreux se met à faire des points d'information quotidiens à la radio publique.
NDR Info, das Coronavirus Update.
Alors ce sont des conversations avec une journaliste d'au moins une heure, alors assez accessible mais scientifiquement de haute volée. Il ne prend pas les auditeurs pour les imbéciles. Et ce podcast quotidien est vite devenu le rendez-vous incontournable des Allemands pendant la crise. Et par exemple, sur la totalité du mois de mai, la page internet du podcast a enregistré 41 millions de clics.
Ouais. Une heure tous les jours, c'est quand même beaucoup, hein?
Alors Drosten a un peu ralenti le rythme, maintenant c'est 2 épisodes par semaine, mais au total il a fait 50 épisodes dans un langage tellement limpide et nuancé en même temps qu'il a vite rendu inutile et ridicule toutes les autres émissions, tous les autres débats sur la maladie. Il a fait taire un grand nombre d'éditorialistes et tous ceux qui s'improvisaient spécialistes dans les médias, et ça sans jamais devenir arrogant ou péremptoire, comme quand il commentait l'état de la recherche sur le vaccin en avril.
Ici, dans ce podcast, nous ne restons qu'à la surface des choses, à un niveau de débutant. Et je dois aussi vous redire que je ne suis pas un chercheur spécialiste des vaccins, je ne suis qu'un simple virologue.
Alors la journaliste Maïti Nguyen, qui anime une émission de science à la télé, dit avec humour qu'il lui a piqué son travail, mais elle ne lui en veut pas, au contraire.
Je crois que beaucoup de gens n'ont pas saisi la chance que nous avons eue. Le hasard a fait que l'un des plus grands spécialistes mondiaux des coronavirus est un Allemand, donc il peut nous donner des explications directement dans notre langue maternelle. Et en plus, il le fait, car son job, c'est de faire de la recherche, pas de faire de la vulgarisation pour le grand public.
Alors les premières semaines, surtout quand il y avait plein d'incertitudes et plein d'inconnus autour du virus, les mots de Drosten vont vraiment aider les Allemands à tenir bon. Sa voix crédible, posée, leur a donné confiance. Il était à la fois une vigie et un phare et ils lui sont restés fidèles au fil des mois. Il suffit d'arrêter des gens dans la rue et de montrer une photo de Christian Drosten.
Oui, je connais le professeur Drosten par son podcast que j'écoute depuis que les écoles ont fermé, parce que soudain je me suis sentie personnellement concernée. Il est tout simplement celui qui nous éclaire. Je crois que dans toute situation nouvelle, nous recherchons une figure pour nous guider. Et cette fois, ce n'est pas une personnalité politique, c'est lui qui a endossé ce rôle, pour nous tous. C'est une position ambivalente et complexe. Absolument personne en ce moment ne peut nous dire ce qui est bon ou mauvais. Nous devons nous adapter semaine après semaine. Et moi, je trouve ça bien que quelqu'un soit là pour nous expliquer cela.
Voilà, ok, il est connu de tous, mais ça va plus loin encore, hein. Hélène, il y a même une sorte de Drosten mania en Allemagne, m'avez-vous dit?
Oui, un phénomène clairement de starisation avec son air de Harry Potter renfrogné ou de droopy élégant, à vous de voir. Le professeur fait chavirer les cœurs. Il a ses groupies qui vendent des t-shirts à son effigie. Il y a même des artistes qui ont fait des chansons à sa gloire.
Christian Drosten, dem Virologen der Berliner Charité. Christian Drosten, der alles so erklärt, dass ich es auch verstehe. Yeah. Hält dieser Mann das Land auf dem neuesten Stand und bleibt für uns auf Posten. Christian Drosten, Christian Drosten, yeah.
Et cette berlinoise que j'ai rencontrée résume bien la hype autour de Drosten.
Ah oui, bien sûr, tout le monde connaît Drosten. Avec son blog, avec son podcast... Il est très proche aux gens, et spécialement les femmes, qu'il dit lui-même qu'il est le meilleur dans sa discipline et tout ça, mais il le dit avec une charme sans pas quoi. Mais je crois que c'est un peu trop maintenant avec le hype sur Drosten. Les gens ne pensent pas, oui, c'est une étude scientifique, c'est quelque chose que le professeur dit, c'est Drosten a dit, c'est un peu comme gourou.
Ah, gourou, ça veut dire qu'il a aussi ses détracteurs, Hélène.
Oui, assez logiquement, il agace aussi. Dans les manifestations anti-Covid, avec ces gens qui contestent l'existence du virus, qui cèdent aux théories complotistes, on en a parlé ensemble. Ouais. Hein. Voilà, il est la figure à abattre, l'homme qui empêche les autres de vivre normalement, qui les prive de leur liberté. Il est même comparé au docteur Mengele, le médecin nazi de Auschwitz. Et s'il a reçu des demandes en mariage, beaucoup, il a aussi reçu beaucoup de menaces de mort.
Mengele, menaces de mort, ça va loin. Comment vit-il cette starisation ?
Très mal. Il a plusieurs fois dit qu'il réfléchissait à se retirer complètement de la vie publique. Et en dehors de son podcast, lui qui est fils d'agriculteur taiseux du nord de l'Allemagne et qui est devenu médecin un peu par hasard, se tient très en retrait des médias. Écoutez cet extrait de son podcast où il revient sur sa notoriété.
Il y a des journaux qui publient maintenant des caricatures de virologues. Je me vois croquer en personnage de cartoon et ça me met mal à l'aise. S'il y a bien une chose que la science ne peut pas et qu'elle n'a pas le droit de faire, c'est de s'arroger un mandat démocratique. Les décisions doivent être prises par la politique. J'essaie toujours d'être clair sur ce point. Un scientifique n'est pas un homme politique. Il n'a pas été élu. Il n'aura jamais à rendre des comptes. D'ailleurs, aucun scientifique ne veut se retrouver à dire des choses telles que « cette décision politique était bonne » ou bien « celle-ci était mauvaise ». Vous n'entendrez jamais cela de la part d'un scientifique sérieux.
En entendant ça, je me dis que Drosten, c'est un peu l'anti-Raoult, non ?
Alors c'est en tout cas un homme qui incarne l'élite scientifique internationale et qui revendique faire partie de ce sérail. En plus, il n'est absolument jamais tombé dans le populisme et pourtant les médias et notamment le Bild ont cherché à le pousser sur ce terrain. Fin mai, le tabloïd lui a donné une heure, un peu comme un ultimatum, pour répondre par mail aux propos de collègues internationaux qui remettaient en question certaines de ses positions. Alors il a éteint la polémique tout de suite en quelques mots, par tweet d'ailleurs. j'ai mieux à faire. Et la petite phrase est devenue culte ici. Il cultive donc vraiment son côté expert, le nez dans son microscope. Pas question d'enjoliver les choses ou de forcément chercher à plaire. Le Spiegel aussi s'y est cassé les dents. En interview, il l'a comparé à Yoda dans La Guerre des Étoiles ou à Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Ça a fait un gros flop. Drosten a répondu qu'il ne connaissait pas ces personnages et qu'il valait mieux l'interroger sur le virus.
Quand même, ne pas connaître Yoda manque à sa culture, je trouve, hein, même s'il a l'air très bien. Ce professeur Drosten qui a donc donné 50 heures de cours aux Allemands, hein, si j'ai bien compris. Merci, merci beaucoup Hélène de nous avoir aidé à mieux comprendre pourquoi l'Allemagne a bien résisté à l'épidémie à travers ce portrait d'une sorte de pop star malgré lui. À bientôt.
À bientôt.
À suivre, un périple de plus de 3000 km à travers l'Europe du Sud qui espère tourner la page et voir revenir les touristes.
Europe 1, les carnets du monde.
Jusqu'à 14h, nous sommes avec vous, Sophie Larmoyer. Attachez vos ceintures. 13h13, on prend la route pour traverser des pays d'Europe encore fermés, jusqu'à il y a peu, à cause du coronavirus, bien sûr.
On vous emmène sur les routes de l'Europe du Sud, une sorte de road trip à travers les pays qui rouvrent leurs frontières, notamment dans l'espoir de relancer le tourisme à quelques jours de l'été. Et c'est l'occasion d'entendre à quel point les situations ont été différentes d'un pays à l'autre. Bonjour Jean-Sébastien Soldaini.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Grand reporter à Europe 1, vous nous avez conduit depuis 2 semaines à travers cette Europe du Sud, en traversant d'abord un pays qu'on a suivi de très près pendant cette épidémie, c'est l'Italie. On sait que le confinement y a été vraiment dur, qu'il y a eu beaucoup de victimes. Mais on sait moins comment les Balkans et la Grèce ont réagi. 3000 km de route et de reportage vous ont permis de vous rendre compte, Jean-Sébastien, que chaque pays avait finalement son propre niveau de paranoïa face à ce virus.
Oui, nous avons pris la route et je n'ai pas dû rouler longtemps pour arriver dans une ambiance à l'opposé de celle que nous avons vécue en France, la Slovénie, où on peut parler de miracle slovène, miracle parce que seulement 1500 cas et 109 morts, alors que l'Italie toute proche a le plus lourd bilan d'Europe. Avec une telle situation, on souffle du côté de Ljubljana et cette ambiance promenade au soleil, dans les rues pavées, au bord de la rivière Barbara et Nina, elle, profite d'une douceur de vivre retrouvée et d'un concert de jazz improvisé.
On est voisins de l'Italie et on pensait donc que leur scénario se reproduirait ici. On était sûrs à 100% qu'on aurait beaucoup de morts, nous aussi en Slovénie. Mais on n'en a eu que 109. Vraiment, on a été les plus chanceux d'Europe.
Je me sens super bien car la Slovénie est un pays merveilleux. On est tellement fiers de pouvoir profiter comme ça dans nos villes, dans notre nature qui est omniprésente en Slovénie. Donc je suis ravie que le confinement soit terminé et que l'épidémie soit vaincue. Quant au tourisme, les habitudes vont changer. Les touristes sont plus regardants sur les endroits où ils vont aller. Beaucoup d'Italiens, par exemple, ne savent même pas où est la Slovénie. Et là, on va attirer des gens qui recherchent des environnements comme ici, en Slovénie.
Tellement détendus qu'ils pensent au coup d'après. Ils imaginent déjà tirer profit de cette situation privilégiée. En tout cas, c'est insouciance à tous les étages. Les Slovènes vivent comme avant. Pas de distance à la plage, ni même aucun souci pour pratiquer des sports collectifs sans masque, sans rien.
Mais d'ailleurs, globalement, Jean-Sébastien, les Balkans ont été peu touchés. C'est cette même ambiance partout ?
Non, pas du tout. En Croatie, c'est à peu près la même chose, mais ailleurs, c'est vécu très différemment. Ça m'a d'ailleurs poussé à faire quelques détours. Impossible de me rendre au Monténégro, qui n'avait pas ouvert ses frontières au moment où je m'y suis présenté. Impossible d'aller en Bosnie non plus, même pour des raisons professionnelles. Alors que c'est ce qui m'a permis d'entrer en Croatie avant le 15 juin. Cela montre que ces pays sont terrorisés par l'apparition de nouveaux cas, on peut les comprendre. Et puis, il y a ceux qui ont eu des conditions de confinement très dures.
Oui, la Serbie, je crois, notamment. Il y avait un couvre-feu de 17h à 5h du matin. Et même les week-ends, des week-ends entiers ont été confinés sans autorisation de sortie. Comment le déconfinement est vécu là-bas ?
Eh bien, la contrepartie de ce régime strict, c'est lâcher tout. Il y a encore des règles à respecter. Mais lorsque vous promenez dans les rues de Novi Sad, la deuxième ville du pays, vous vous rendez compte que la parano total du gouvernement serbe produit aujourd'hui l'effet inverse, notamment chez Johanna.
C'était vraiment trop. Nous ne pouvions pas vivre normalement, particulièrement le soir.
especially during the evenings.
En Serbie, on appelait ça les heures de la police. Et je pense que les gens en ont vraiment marre de tout ça. Je sais que dans les transports en commun, on doit encore avoir un masque, mais la plupart ne le font pas. Il y a aussi cette règle, dans les bus, on ne devrait pas pouvoir s'asseoir sur tous les sièges. Certains sont interdits. Mais plus personne ne respecte les règles.
Ras-le-bol des contraintes, car il y a le sentiment que tout est fini en Serbie. Mais ce qui est paradoxal, c'est que ces règles très strictes ont été très respectées. Julien est un Français qui venait de rejoindre sa femme à Belgrade. Il a dû, de son côté, observer une quarantaine non pas de 14 jours en arrivant en Serbie en pleine épidémie, mais de 28 jours.
D'une certaine manière, pour moi, c'était plus de se dire, voilà, les règles ont été édictées de cette manière et on va s'y soumettre. Ici, moi, ce que j'ai pu voir, c'est que finalement, les gens se sont finalement très facilement adaptés, peut-être aussi parce qu'ils avaient vécu ces mêmes situations pendant la guerre de Yougoslavie avec des blocus successifs. Donc, c'est des modes de fonctionnement où on passe sur un mode d'urgence, on passe sur un mode différent, on baisse la tête. Et on essaye de passer à travers l'orage. Mais ce n'était pas quelque chose de complètement nouveau pour eux. Et donc, cette adaptation s'est faite de manière assez douce.
J'ai ensuite pris la direction de la Bulgarie. Là, nous sommes chez les bons élèves. Restaurants et cafés ont rouvert dès le 1er juin. Mais les professionnels continuent d'appliquer des règles strictes de désinfection, ce qui leur vaut un label Safe Travel délivré par le Conseil mondial du tourisme. Et ils s'y plient, ils gardent leur distance aussi, car ils entendent bien concurrencer la Slovénie dans le match des pays propres.
Le match des pays propres. Enfin, Jean-Sébastien, dernière destination sur votre route, la Grèce, qui pour le coup reste très vigilante malgré l'ouverture des frontières entre pays européens en début de semaine, le 15 juin.
Là, c'est vigilance maximum et contrôle à l'arrivée draconien. Si vous arrivez d'une zone rouge, une zone comme le nord de l'Italie par exemple, c'est test PCR obligatoire, attendu résultat pendant 24 heures dans une chambre d'hôtel payée par le gouvernement. Si vous êtes négatif, vous devez vous confiner chez vous ou dans un hôtel pendant encore 7 jours. Si vous êtes positif, c'est 14 jours de confinement pris en charge par l'État et cela vaut que vous soyez grec ou non. Le pays a même interdit les vols en provenance de certains pays, de certaines zones rouges. Mais Manos, un grec qui vit à Londres, rencontré dans l'avion entre Sofia et Athènes, a pu contourner cette interdiction.
La Grèce n'ouvre ses frontières qu'aux pays sûrs. Mais comme la Grèce ne considère pas le Royaume-Uni comme sûr, vous pouvez prendre un vol au départ de Londres et faire une escale en Bulgarie ou en Ukraine. Ensuite, vous pouvez entrer en Grèce. Le seul inconvénient est que le billet est plus cher.
Le gouvernement est conscient de la faille, mais il mise sur le fait que les personnes qui viennent en Grèce de cette façon viennent pour une bonne raison. Et donc, ces personnes payent le prix, quoi qu'il en soit. Certains ressortissants de pays européens peuvent aller librement en Grèce. Il peut tout de même y avoir des contrôles aléatoires parce qu'il y a besoin de relancer le tourisme. C'est 20% du PIB du pays. Les restaurateurs et les hôteliers attendent ça avec impatience. Mais Yanis, gérant d'un établissement de bord de mer, est dans le flou pour toute sa saison.
On ne peut qu'attendre. De la même manière que nous avons peur, les touristes aussi ont peur. Ils savent que la Grèce est un pays sain, mais dans leur pays, c'est encore l'inquiétude. On a peur d'une deuxième vague. Donc tout le monde veut faire attention. Mais moi je leur dis, n'ayez pas peur, venez profiter.
Justement, si on veut aller en Grèce en juillet, c'est possible, Jean-Sébastien ?
Alors, à partir du 1er juillet, en théorie, les Grecs se réservent encore le droit de changer ça. Mais à partir du 1er juillet, il n'y aura a priori pas de restrictions. Okay. Le gouvernement se réservera quand même la possibilité de faire quelques tests PCR aléatoires. Et il y a quand même un immense respect en Grèce pour la façon dont l'épidémie a été gérée. Évidemment, parce qu'il y a eu peu de cas, il y a eu peu de morts. Mais aussi politiquement, les Grecs apprécient que ce soit les scientifiques qui soient allés au devant des médias. Ce sont eux qui ont dicté les préconisations. Le Premier ministre et son gouvernement sont eux restés totalement en retrait et ils ont écouté les professionnels.
Voilà, et pour le meilleur résultat possible, vous l'avez dit. Merci beaucoup Jean-Sébastien, rentrez bien, faites attention.
Merci Sophie, à bientôt.
À bientôt.
Europe 1, les carnets du monde.
13h24, vous écoutez Europe 1, c'est l'heure d'un livre dans le monde avec vous Sophie Larmoyer. C'est le moment de découvrir un roman étranger avec Monsieur Littérature Nicolas Carreau.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
On écoute le monde changer dans les carnets, on le lit aussi, on le voit changer. Et cette semaine, on prend la direction de la Grande-Bretagne avec
oui,
vous.
Oui, mais attendez Sophie.
Les trois coups, c'est une pièce de théâtre, votre livre.
Non, mais ça pourrait. Ça s'appelle « Un mariage en 10 actes » chez Stock, dans la collection La Cosmopolite, okay. Signé Nick Hornby. Nick Hornby, on le connaît pour un précédent roman qui avait eu beaucoup de succès, « High Fidelity », haute fidélité, et un autre qui a été adapté en film avec Hugh Grant, je suis sûr que vous l'avez vu, « About a Boy », vous vous souvenez, un célibataire trentenaire rentier et sa confrontation avec un gamin de 12 ans qui surgit dans sa vie. Bref, là, c'est donc « Un mariage en 10 actes » et vous allez comprendre pourquoi je disais que ça pourrait être une pièce de théâtre. C'est l'histoire de Tom et Louise. Ils sont mariés, deux enfants, ils ont la quarantaine, on les rencontre dans un pub, ils discutent, lui, il boit une bière, elle, un verre de vin, ils sont là parce qu'ils attendent l'heure de leur rendez-vous, c'est dans 10 minutes, rendez-vous chez une psy spécialiste des couples.
Thérapie de couple.
Voilà, ils sont là parce que Louise a fait, comment dire, un petit dérapage avec un autre type. Je ne vous fais pas un dessin, mais bon, on sait bien, dans ces cas-là, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air. Il n'y a pas le coupable et l'innocent. Il y a souvent une situation qui a mené à... Et c'est le sujet, justement, qu'il commence à aborder avant d'aller chez la psy. Ce ne sont que des dialogues. Parfois, ils réfléchissent sérieusement à leurs problèmes. Parfois, l'un essaye, mais l'autre botte en touche ou l'inverse. Ils reviennent, bien sûr, sur l'incident, sur les causes aussi de cet adultère. Mais surtout, on est en Angleterre, donc on n'y coupe pas. C'est très drôle de cet humour britannique tout en finesse et parfois en sarcasme, pince sans rire. Moi, j'adore.
Et donc ça, c'est l'acte 1. Et l'acte 2, c'est la psy.
Eh ben non, justement, à la fin de ce dialogue-là, il se dirige vers la porte pour le premier rendez-vous et Tom part en courant. L'acte 2, c'est juste avant le nouveau premier rendez-vous, toujours dans le pub. Et en fait, on n'y entre pas. On suit le brief et le débrief des rendez-vous, mais on est toujours dans le pub à écouter Tom et Louise. On ne sait pas ce qui s'est passé dans le cabinet. Enfin, on sait que parce que nous disent ou ne nous disent pas Tom et Louise. Tout est dans la suggestion. C'est ce procédé qui fait la force de ce roman, selon l'éditrice Raphaël Libart.
Pour moi, c'est ça qui fait l'intérêt du livre. Et puis, il est extrêmement doué. Et là, c'est là on voit aussi sa casquette de scénariste. Il est extrêmement doué dans les dialogues. Donc, il n'y a pas un mot de trop. Il n'y a pas... Ça fuse dans tous les sens. Ça fonctionne extrêmement bien. Puis le fait que ce soit presque comme des scénettes, je trouve que ça renforce le côté vraiment à l'os de chaque chapitre et la puissance des échanges entre Louise et Tom.
À l'os, carrément.
Ah oui, à l'os, ça c'est un truc que les éditeurs utilisent beaucoup, c'est à l'os. Mais c'est vrai, le roman est court, dans un format compact, il n'y a pas de gras.
Mais ils ne discutent que d'eux ?
Pas seulement. Enfin, par eux, ils parlent aussi du reste. D'abord, ils ont vu sur la porte du cabinet, donc ils observent et ils commentent les entrées et les sorties des autres couples. Okay. Et puis, ils parlent indirectement du monde comme il va et de l'Angleterre. Par exemple, au fil de la conversation, évidemment, le Brexit s'invite.
Ce qu'il montre, c'est que le Brexit, ok, c'est un grand sujet politique, national, européen, mais finalement, c'est un sujet qui va même jusqu'à diviser, peut-être le peuple britannique, mais va jusqu'à même diviser les familles, au sein des familles élargies, mais également au sein du couple, puisque Louise découvre, lors d'un de ses moments au pub, en fait, il a voté pour le Brexit, parce qu'elle ne savait pas que son propre mari avait voté pour le Brexit, alors qu'elle est totalement anti-Brexit, pro-européenne, et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est finalement assez, qui doit être assez fréquent dans beaucoup de familles anglaises.
À la fin, Nicolas, ils se réconcilient ?
Bah alors ça, Sophie, il faudra lire pour savoir. Ou voir d'ailleurs, puisque le livre est adapté déjà en série par Stephen Frears.
Oh, bah s'il vous plaît. Un mariage en 10 actes, c'est chez Stock, la traduction...
De Christine Barbast.
Merci beaucoup, ça donne très envie de lire. Sophie. À tout à l'heure pour La Voix et Livre. On vous retrouve à 14h. Et tiens, on reste en Grande-Bretagne dans un instant où des milliers de SDF ont été logés dans des hôtels pendant le confinement.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h30 et c'est une double étape que vous nous proposez maintenant, Sophie Larmoyer. En Grande-Bretagne et en Belgique, nous nous rendons auprès de populations vulnérables pour qui les confinements étaient un défi supplémentaire.
Des villes vidées de leurs habitants confinés, des restaurants fermés, plus moyen de faire la manche pour ceux qui sont à la rue. Un peu partout, la crise sanitaire a rendu plus vulnérables encore les sans-domicile fixe ou certaines catégories de population déjà fragiles. Mais les confinements ont aussi favorisé l'émergence de solutions. Deux exemples dans les carnets du monde et on commence par la ville de Londres où l'on retrouve Élodie Goulesque. Bonjour Élodie.
Bonjour Sophie.
Quand les Londoniens se sont confinés, la municipalité a logé des sans-abri dans des hôtels privés de leurs touristes et forcés à la fermeture, c'est ça ?
Exactement, il a fallu être réactif pour loger au plus vite les plus démunis de la capitale britannique. Mmh. Londres compte plus de 170 000 personnes qui dorment dans la rue, dans des abris ou des logements temporaires. Plusieurs associations ont donc collaboré avec la mairie de Londres et des chaînes d'hôtels, puisque les hôtels, c'était parfait comme cadre en temps de pandémie. Ça permet d'isoler chacun avec des chambres, des sanitaires individuels. Et ça, justement, cette intimité-là, eh bien, aucune des personnes accueillies ne l'avait vécue, en tout cas depuis longtemps. C'est ce que m'a expliqué Petra Salva, l'une des directrices de l'association Sainte-Mongos, qui vient en aide aux sans-abri depuis plus de 50 ans.
Ce que nous avons réussi en quelques mois, nous ne l'avions jamais fait en 20 ans. Être capable de loger autant de monde et les mettre à l'abri, c'est phénoménal. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu le secteur travailler aussi rapidement. Le bureau du maire être aussi efficace. Et vous savez ce que ça montre ? Que si l'on veut vraiment y arriver, si on a vraiment l'envie, qu'on veut vraiment sortir les gens de la rue avec les bonnes ressources et les bonnes personnes, on peut le faire.
Elle semble étonnée elle-même de l'efficacité de la réponse. Combien de personnes ont-ils réussi à mettre à l'abri, Elodie ?
Alors au total, Sainte-Mongos a relogé 1600 personnes à Londres aux frais de la mairie et plus de 5000 à travers toute l'Angleterre. 80% d'entre eux sont des hommes, les femmes étant moins nombreuses à la rue, mais souvent plus coincées dans des logements avec des conjoints violents. Et la tranche d'âge va de 25 à 45 ans, mais loin du cliché qu'on peut avoir parfois, eh bien, la plupart étaient ravis qu'on leur propose une solution.
Quand vous entendez et voyez le chaos autour de vous, les magasins fermés, les trains qui ne circulent plus, les gens qui portent des masques, ça devient incroyablement effrayant. Et donc finalement, les gens ont été très ouverts à l'idée de vivre sous un toit.
Alors autre aspect, les médecins ont craint que ces personnes sans domicile fixe soient aussi vecteurs du virus pendant le confinement. Comment les associations ont-elles pris en compte ce facteur de la contagiosité ?
Ils m'ont expliqué qu'ils ont dû faire une sorte de tri en fait parmi ceux qui étaient les plus à risque, isoler ceux qui avaient des symptômes du Covid et s'occuper des tâches quotidiennes également comme laver le linge ou nourrir tout le monde. Et ça d'ailleurs, assurer l'air passe, ça a été un peu compliqué les premiers jours.
Nourrir des milliers de personnes requiert beaucoup d'organisation, vous savez. Je me souviens que le premier jour, un de nos employés était au téléphone en train d'essayer de commander 50 pizzas. Elles sont arrivées froides et avec le temps de livraison, tout le monde avait très faim et donc descendait dans le hall de l'hôtel alors qu'on essayait de les mettre en isolement. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, ça ne peut plus durer comme ça.
Donc peu à peu, l'organisation s'est mise en place et c'est finalement grâce à un traiteur que des repas ont été livrés 3 fois par jour devant la porte de chaque chambre.
On sait que ça peut être très compliqué de se retrouver entre quatre murs quand on a pris l'habitude d'être dehors tout le temps. Quels sont les retours de cette expérience, Elodie ? Comment ces personnes ont-elles vécu le confinement ?
Oui, c'est vrai. Et si on en croit les associations, les retours sont très positifs. Imaginez, certaines personnes vivaient dans la rue depuis 15 ou 20 ans, parfois plus. Mais les bénévoles de Sainte-Mongos ont essayé de rester très à l'écoute de chacun. Et ça a parfois même changé la vie de certains.
Une femme m'a dit un jour, Petra, quand j'ai découvert la chambre d'hôtel, je n'en croyais pas mes yeux de voir un lit. Je ne savais pas si je devais dormir sur le lit ou pas. Vous imaginez ? Elle m'a dit, je n'étais pas sûre de m'y habituer, mais finalement, j'ai dormi sur le lit. J'ai mangé 3 repas par jour et je me sens complètement différente. Donc vous voyez, juste avec ça, l'amélioration physique et psychologique de cette femme qui a pu se reposer, être en sécurité, eh bien, ça lui a permis de se remettre et de réfléchir tranquillement.
Alors malheureusement, tout ça devrait se terminer. Les hôtels n'ont pas encore ouvert à Londres, mais ça va arriver bientôt. Que vont devenir ces milliers de sans-abri relogés provisoirement, Elodie ? Retour à la rue ?
Alors, c'est la phase sur laquelle travaillent les associations en ce moment. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a prévenu qu'à partir de mi-juin, la ville n'aurait plus les moyens de financer ses chambres d'hôtel. Il a annoncé 44 millions d'euros de budget pour rénover et adapter les accueils temporaires existants, en faisant par exemple en sorte que les sanitaires soient intégrés dans les chambres. Un geste apprécié, mais pas suffisant.
Nous accueillons avec plaisir le fait que le gouvernement a annoncé plus de fonds et que le maire dise qu'il fait au mieux pour que ces personnes ne redeviennent pas sans-abri. Mais maintenant, il va falloir qu'ils déboursent de l'argent pour que tout ça devienne réalité.
Petra Salva m'a dit que la réinsertion passera aussi par l'emploi, mais certains doivent d'abord régulariser leur situation. Près de 50% des sans-abri de Londres ne sont pas britanniques, et Brexit oblige, il faut d'abord mettre en ordre leur settled status. C'est un document en fait qui leur permet de rester sur le sol britannique une fois le Brexit acté au 31 décembre prochain.
Mais ça peut durer un petit peu longtemps. En attendant, ils vont devoir quitter les hôtels.
Oui, forcément. Au moins 3 des 14 hôtels réquisitionnés à Londres fermeront leurs portes aux SDF d'ici la fin du mois. Alors certains ont la chance de pouvoir loger temporairement chez des amis ou de la famille. Mais malheureusement, il est probable que d'autres retrouvent la rue dans les prochaines semaines.
On se dit au moins que pour certains, ça aura été l'occasion d'une reprise de contact avec, avec leur famille. Merci beaucoup, Élodie. Merci, à bientôt dans les carnets.
Merci, Sophie. À bientôt.
Autre initiative de mise à l'abri orchestrée par des associations. Cette fois, nous sommes à Bruxelles, où le temps de la crise sanitaire, le président du Parlement européen, David Sassoli, a mis à disposition plusieurs bâtiments de l'institution. Et l'un d'eux, dans la capitale belge, est devenu un refuge pour femmes en situation de vulnérabilité. Une centaine d'entre elles y sont accueillies par le SAMU social de Bruxelles, qui gère cet accueil. J'ai appelé Sébastien Roy, son directeur général, très enthousiaste sur cette expérience.
Le bâtiment est un bâtiment de bureau, en fait, qui est le bâtiment Helmut Kohl du Parlement européen. Donc ça s'est fait à l'initiative du président du Parlement, une initiative à laquelle on a répondu très vite parce qu'on avait besoin, en fait, de répartir notre public à cause du confinement et des mesures de distanciation. Et donc on y a mis une centaine de femmes qui dorment là maintenant depuis fin avril, qui dormiront là jusque fin juillet et qui sont en fait très contentes. On a réaménagé ces bureaux en dortoir en utilisant la réfectoire du Parlement.
Ok, donc elles sont combien par bureau ou par chambre maintenant, sont devenues des chambres?
Elles sont, alors c'est ça l'avantage, c'est qu'elles dorment seules dans les chambres, à part une ou l'autre exception. Et ce qui amène pour elles en fait une sorte, un meilleur confort que ce qu'on était capable de leur offrir durant le confinement. Et donc ça explique leur satisfaction et en fait leur plaisir de dormir.
On sait que très souvent, la mixité des centres pose de grands problèmes pour les personnes comme ça, sans domicile fixe. Vous aviez jusqu'ici un centre pour femmes spécifiquement ou pas ?
L'avantage de ce qui nous a été proposé par le Parlement est que donc le confort d'être un par chambre, mais surtout de mettre en place un centre uniquement pour les femmes, ce qui offre de vraies perspectives de repos pour elles, d'apaisement. Donc on a pu lancer aussi toute une série d'activités qu'on fait avec elles maintenant.
Comme quoi ?
Durant la journée, des ateliers peinture, des ateliers d'écriture, ateliers de prise de parole, et qui ont un impact assez positif sur l'image qu'elles ont d'elles-mêmes et sur la confiance en elles. On est très motivés par cette expérience qui nous pousse d'ailleurs dans la conviction qu'il faut essayer de maintenir un centre pour les femmes à Bruxelles.
Vous avez l'impression que ça va vraiment changer la situation de certaines de ces femmes, qu'elles vont pouvoir prendre un nouveau départ grâce à cette « pause », entre guillemets, cet accueil ?
Alors, je l'espère. Maintenant, on est en train de réactiver l'ouverture de leurs droits sociaux pour essayer de leur trouver des solutions à plus long terme. On voudrait, nous, continuer un centre pour femmes. Et ce qu'on a réalisé, en tout cas, c'est que le fait d'avoir un centre spécifique et unisexe, quelque part, nous permet de faire des activités dans lesquelles l'épanouissement et le bien-être sont renforcés.
C'est des femmes qui étaient à la rue depuis longtemps, pour la plupart ?
Alors, il y a tous les profils. Il y a des sans-papiers, il y a des femmes qui ont été jetées à la rue, il y a des victimes de violences intrafamiliales. Il y a vraiment de tous les profils. Et en fait, l'alchimie se passe assez bien au sein du centre pour le moment. Et on a vraiment une bonne dynamique. D'ailleurs, elles-mêmes ont décidé d'inviter des responsables pour avoir une vraie discussion sur leur futur, sur le futur du centre, ce qui témoigne d'une vraie prise de confiance à leur niveau pour discuter de leur avenir directement avec des responsables à la fois politiques ou de l'institution.
Finalement, cette situation de confinement a abouti à une situation extrêmement positive, quoi.
Oui, tout à fait. Ouais. Ce qu'il faut maintenant, alors l'objectif du SAMU, évidemment, c'est d'essayer de faire en sorte que cette situation positive, cette opportunité, quelque part, à ce niveau-là du Covid, soit transformée à plus long terme.
Et alors, vous avez des pistes pour ça, en quelques mots ?
Alors, parce que bien entendu, on ne va pas pouvoir rester dans les bâtiments du Parlement. Donc, on cherche activement d'autres bâtiments. Oui, on a de bonnes pistes dans différentes communes de Bruxelles. On visite pas mal de bâtiments pour transformer ce centre à partir du mois d'août ou du mois de septembre.
C'était Sébastien Roy, le directeur général du SAMU social, qui gère cet accueil d'une centaine de femmes dans un bâtiment du Parlement européen. Et juste le temps de tourner une page, on a rendez-vous avec Rob Hopkins, un grand militant écologiste anglais. Il a un message pour nous. Nous avons le pouvoir de changer le monde dans lequel nous vivons, à condition de lâcher un peu la bride à notre imagination. A tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
Chaque dimanche de 13h à 14h, écoutez Le Monde changer avec Sophie Larmoyer. Alors qu'aujourd'hui même, ici en France, la Convention citoyenne pour le climat remet au gouvernement des propositions d'action après 9 mois de travail, eh bien on va rencontrer Rob Hopkins, militant écologiste et initiateur du mouvement international des villes en transition.
C'est un homme d'influence, Rob Hopkins, qui a proposé un jour aux citoyens de sa petite ville de Totnes de prendre en main leur quotidien, de se rassembler au niveau d'une rue ou d'un quartier pour choisir leur façon de s'approvisionner, de se chauffer, de construire de nouvelles maisons. Et en 15 ans, le mouvement des villes en transition s'est répandu dans une cinquantaine de pays. Son dernier livre vient d'être publié en français chez Actes Sud. Son titre, « Et si ?» Et si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous souhaitons ? Tout un programme pour relever les défis des changements climatiques et un programme qui résonne particulièrement en ce moment où le monde s'est arrêté à cause d'un virus. Rob Hopkins m'a répondu depuis chez lui, en Angleterre.
Comme je milite depuis des années sur les changements climatiques, je me suis trouvé à lire des gens que j'admire et qui disaient « Le changement climatique est un échec de l'imagination ». Et ces mots me sont restés dans la peau. Et en poursuivant mes recherches, j'en suis venu à penser qu'on vit une période où notre imagination collective se réduit comme peau de chagrin. Et je crois qu'on a créé les circonstances pour ça, à travers notre système éducatif, la manière dont on travaille, avec les téléphones tellement addictifs qu'on trimballe dans nos poches, en créant de l'anxiété, des traumatismes, du stress, le peu de temps passé au grand air. On a créé les pires conditions qu'il faut qu'au moment même de l'histoire où on aurait besoin d'être le plus imaginatif possible, parce que notre survie dépend de notre capacité à tout réimaginer et à reconstruire, c'est ça le défi du changement climatique, notre imagination n'est pas à la hauteur.
Pourquoi aurait-elle tant de pouvoir ?
Mais parce que l'imagination nous permet de faire des choses extraordinaires. Avant de faire quelque chose, il faut l'imaginer. On n'est pas allé sur la Lune juste parce que Neil Armstrong pensait que ce serait une bonne idée. On avait imaginé aller sur la Lune depuis longtemps et cette vision a créé un tel désir profond d'aller sur la Lune que c'est devenu inévitable. Tout ce qui existe dans le monde a d'abord été imaginé. Et là, le changement climatique nous met devant un défi immense parce qu'il faut réimaginer nos systèmes de transport, notre alimentation, tout en fait.
À propos du pouvoir de l'imagination, au début du livre, vous racontez quelques histoires qui l'illustrent.
Oui, des études montrent que si vous faites un groupe de personnes, vous les séparez en deux et les mettez devant un piano, à la première moitié, vous faites apprendre une série de notes sur le clavier et l'autre moitié, vous leur demandez d'imaginer qu'ils s'entraînent à apprendre ces mêmes notes. Eh bien, au bout de deux semaines, tous sont presque aussi bons au clavier. De la même manière, quand des gens imaginent entraîner un de leurs muscles alors que d'autres le font vraiment, au bout de deux semaines, les progrès musculaires sont quasi équivalents. L'imagination humaine est incroyablement puissante. On la sous-évalue complètement.
C'est une véritable compétence.
Oui, complètement. Et en même temps, je crois que c'est quelque chose de très naturel. Je pense que c'est un signe extérieur de bonne santé. Quand nos enfants sont heureux et en bonne santé, ils sont pleins d'imagination. Les générations futures pourraient nous dire « Franchement, vous n'avez pas réussi à imaginer comment vivre en utilisant moins d'énergie fossile ? C'était pourtant pas si difficile. » Le défi du changement climatique nous impose de réduire nos émissions de 7 à 8% par an à partir de maintenant. Mais on est paralysé à se dire « Non, il faut continuer à tout faire comme avant parce qu'on a l'habitude comme ça. » Alors que si on fait preuve d'imagination, on peut changer énormément de choses. Et la beauté de tout ça, à mon avis, c'est que quand on fixe des contraintes, on est encore plus imaginatif. On voit ça avec les haïkus, la poésie, le rap.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des communautés qui imaginent déjà le monde qu'ils souhaitent. C'est très concret.
Oui, dans le livre, je rassemble des histoires de ces endroits où les citoyens utilisent leur imagination comme l'un des outils clés. Et pour ça, il faut être capable de poser la bonne question. Et si ? Je crois que « et si » sont les deux mots les plus importants et puissants de notre langue. En anglais, on dit « what if » parce que quand les gens se mettent ensemble et se demandent « et si », ils réussissent à déverrouiller pas mal de choses. L'une des histoires que je préfère se passe à Liège, en Belgique. Le groupe de transition s'est demandé « et si dans une génération, la majorité de la nourriture de la ville venait des terres alentours ?» Et cette question a permis d'imaginer de façon incroyablement nouvelle l'approvisionnement alimentaire de leur ville. Ils ont levé plus de 5 millions d'euros dans la communauté, ont créé 21 coopératives. Il y a une ferme, deux vignobles, 4 magasins, bientôt 5 dans le centre-ville.
ville. C'est vraiment une nouvelle manière de penser comment une ville se nourrit. Et ça a commencé avec des gens comme vous et moi, et nos auditeurs, qui se sont rassemblés et se sont posé une vraie bonne question. Et si ?
Vous avez parlé à des gens qui apportent des réponses.
Oui, exactement. Et en faisant le livre, j'ai découvert qu'il y avait des hommes et des femmes politiques incroyables dans le monde, qui commencent à mettre l'imagination au cœur de leur action. À Bologne, par exemple, la ville a créé ce qu'ils ont appelé un bureau civique de l'imagination, dont le rôle est de recueillir les idées des communautés et de les aider à les mettre en œuvre. J'ai découvert que le maire de Mexico a conçu un ministère de l'imagination. Ça peut sembler sortir d'un bouquin d'Harry Potter, mais non, ça existe à Mexico.
Ce sont de vraies solutions, ce n'est pas juste de l'utopie.
Non, je le dis clairement dans le livre. Il ne s'agit pas juste d'imaginer une utopie, parce que l'utopie, ça n'existe pas. Mais on sait comment faire. Ces solutions existent toutes quelque part dans le monde. C'est appliqué sur le terrain. On sait comment nourrir les villes, construire des immeubles avec des matériaux sains et à faible consommation. Tout ça, on sait le faire. Il faut juste s'y mettre. Et ça commence par une bonne conversation.
La COVID-19 a créé un moment très particulier ces derniers mois. Est-ce que c'est là l'occasion d'imaginer plus fort ?
C'est le moment parfait parce que, vous savez, j'anime beaucoup de conférences et d'ateliers en France, en Belgique, et je commence souvent en invitant les gens à s'imaginer dans 10 ans. Dans un futur où on aurait fait tout ce qu'on peut et de s'y promener un peu, de voir à quoi ça ressemblerait. Et ce qui ressort toujours, c'est il y a beaucoup moins de voitures, l'air est bien plus pur, on entend le chant des oiseaux, il y a une forte tendance à mener des projets collectifs. Or, depuis 2 mois, c'est précisément ce qu'on trouvait en sortant de chez soi, ainsi qu'une énorme et incroyable entraide entre les gens un peu partout dans le monde. Et alors qu'on se demande maintenant comment on va construire la suite, il faut se dire que ça doit être la base. On
ne
va pas revenir en arrière comme c'était, on doit rebondir vers l'avant, vers quelque chose de bien meilleur, bien plus délicieux, et qui soit conforme à nos besoins, et c'est entièrement possible. La question, c'est de savoir comment on avance en tenant compte des limites que la situation actuelle nous impose. À mon avis, si on réussit à concevoir la suite habilement, la présenter habilement, et en s'assurant toujours que cela bénéficie d'abord aux plus pauvres dans la société, comme ça a été fait à Grande-Synthe et dans d'autres endroits en France, alors je crois que les gens sont vraiment prêts à aller dans cette direction.
Mais il y a toujours beaucoup de résistance.
Oui, bien sûr, il y a des gens dans le monde de la finance, des affaires, qui voudraient que le business continue comme si de rien n'était. Je ne crois pas que ce soit une raison pour ne pas avancer. Il y aura toujours des résistances, mais il faut qu'on opère le changement. On veut que nos petits-enfants nous reconnaissent et nous saluent comme des héros qui avaient une vision et l'imagination pour changer les choses, plutôt que comme des personnes qui font passer leur bien-être avant l'avenir. Et j'encourage vraiment les gens à découvrir ces histoires. Elles se passent là où vous vivez, près de chez vous. Tous ces projets d'agriculture urbaine, ces nouveaux modèles d'alimentation, d'énergie collective, c'est incroyable. Il y a une foison de ces projets à travers la France. Allez les voir, investissez-y, soutenez-les et permettez-leur d'exister. Il faut y puiser pour commencer à imaginer comment l'avenir pourrait être.
Ces deux mots, « et si », on dirait un jeu d'enfant, vous nous dites d'arrêter d'être raisonnable.
Non, vous ne devez pas arrêter d'être raisonnable. Mais je crois qu'on doit être capable de voir derrière ce qui est en face de nous. Et la beauté d'une vraiment bonne question, et si, c'est qu'elle permet aux gens de regarder le monde de nouvelles manières. Ce serait comme mettre une nouvelle paire de lunettes. Et elle vous permettrait de voir tous les possibles plutôt que ce qui existe déjà. Et cette aptitude à regarder certaines choses et voir comment elles pourraient être est une compétence extrêmement puissante qu'on devrait tous entretenir de façon urgente.
Voilà, lisez ce livre de Rob Hopkins, « Et si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons ?» C'est Actes Sud qui le publie. Et allons-y, essayons de jouer à la question « et si on faisait ça ?» Chiche. « Et si on retrouvait Joseph Chovanec ?» Allez, d'accord, c'est dans une minute.
Europe 1, les carnets du monde.
Des reportages long format et des invités passionnants avec vous, Sophie Larmoyer. Eh bien, on découvre l'inconnu et on explore le quotidien d'autres cultures chaque dimanche. Il est maintenant 13h53. Avant de refermer ces carnets du monde sur Europe 1, eh bien, on va retrouver un grand voyageur. Lui, c'est sûr, ne manque pas d'imagination, puisque chaque semaine, il nous emmène en autistan. Joseph Chovanec est avec nous sur Europe 1.
Philosophe, autiste Asperger et la tête pleine de ses nombreux voyages qu'il fait dès que possible. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Vous êtes en ligne avec nous depuis la Belgique et c'est une petite promenade qui vous a inspiré cette semaine.
Oui, l'autre jour j'étais avec des amis responsables associatifs en balade, en voiture dans les Ardennes. Beaucoup de verdure, quelques villages assez isolés. Et en approchant de l'un d'eux, j'avais demandé à mes amis comment trouver le centre du village. Et eux de me répondre, mais c'est simple, chaque village, sans exception aucune, a pour centre son église que l'on voit de loin.
Ouais, en France, c'est vrai, hein.
Peut-être, mais ce n'est pas si simple, parce que parfois, il n'y a pas de centre. Je mets quiconque au défi de me dire où se situe le centre-ville de Téhéran. J'avais été intrigué par la question du temps où j'habitais là-bas et j'ai passé beaucoup d'heures à arpenter la ville immense, peine perdue. De même au Caire, hein, il y a ensuite des villes qui ont plusieurs centres. Comme par exemple Mascate, la capitale omanaise, dont d'ailleurs le nom a la même origine que la noix de muscade. Mascate, c'est une sorte de chapelet côtier de petites agglomérations, chacune avec son centre. C'est peut-être un compromis idéal, puisqu'on peut être dans une grande ville tout en évitant des problèmes quasiment inévitables lorsque la ville dépasse une certaine taille.
Mais Joseph, il y a souvent quand même un monument important dans un centre-ville, non ?
Oui, souvent le centre-ville est associé au siège presque mystique du pouvoir. Et mon histoire préférée à cet égard est celle de mon ancien prof de sanskrit, l'immense érudit doyen de la faculté de sanskrit de Bénarès, dans le nord de l'Inde. Un personnage fascinant dont je fus l'unique étudiant pendant ces années à Paris. Et peu après son arrivée en Europe, il m'a demandé quelle était la divinité de Paris, car les écritures de son pays exigent que l'on fasse un sacrifice à la divinité en arrivant quelque part. Alors évidemment, moment de stupeur de ma part. Hein. Au cours suivant, il m'a dit que la divinité de Paris, c'était une certaine Notre-Dame. Il avait vu ce nom au centre sur une carte et il est allé, je cite, y faire un sacrifice.
Oula, quel genre de sacrifice ?
Je ne sais pas, Sophie, et je n'ose pas imaginer ce qui s'est passé ce jour-là. Bref, mais le plus souvent, à l'endroit précis du centre-ville, il n'y a rien. Une vaste esplanade ou une place dont les gens sont d'ailleurs très fiers. On retrouve cette tradition à travers l'Asie, depuis Samarcande jusqu'à Pékin, en passant par Ispahan, l'ancienne capitale de la Perse, mais aussi Moscou, hein, une ville qui garde beaucoup de traces d'un passé turco-asiatique. Dans toutes ces villes, la grande esplanade est souvent qualifiée de la plus belle au monde ou de la plus grande au monde. Et parfois, elle a d'horribles secrets. C'était le lieu des exécutions. À Samarcande, aujourd'hui en Ouzbékistan, je m'étais beaucoup demandé pourquoi la place s'appelait Registan, littéralement le lieu du sable, alors qu'il n'y a pas de sable. J'ai appris plus tard que naguère, il y en avait et que le sable servait à absorber le sang après les exécutions. Hein. À Moscou, il y a la Krasnaya Plouchat. On ne sait pas s'il faut dire place rouge ou belle place. Hein. Ça peut vouloir dire les deux. Et on peut y voir encore la tourelle depuis laquelle le tsar Ivan le Terrible dirigeait en personne les tortures.
Bon, en Belgique, vous êtes plus tranquille, hein ? Avec les petits oiseaux derrière vous.
Dans la zone de culture flamande, au sens le plus large du terme, le lieu sacré des centres-villes, c'est l'incontournable Grand Place, ou plutôt Grote Markt en flamand. Hein. C'est là qu'il y a les plus belles maisons historiques. Le plus curieux, c'est que l'institution du Grote Markt est tellement ancrée dans les esprits que lorsqu'on a bâti la ville nouvelle, qui abrite mon université de Louvain-la-Neuve, dans les années 70, on y a ajouté une Grand Place, comme si une ville ne pouvait pas être envisager sans cette institution.
Et Joseph, on aurait peut-être dû commencer par là, mais pourquoi cette passion des centres-villes ?
C'est vrai qu'il y a le problème de la foule qu'on y trouve, mais il y a une raison secrète pour me rendre au Grote Markt. C'est là qu'il y a les meilleurs chocolats et gaufres. Quand on cherche des amis autistes ou pas, petits ou grands, c'est sans doute de ce côté-là qu'il faut chercher.
Votre gourmandise vous perdra, Joseph.
Et j'y retourne.
Merci beaucoup, Joseph. Vous étiez dans le jardin de l'Université de Louvain-la-Neuve. À dimanche prochain.
À tout bientôt.
Et c'est l'heure de refermer ces carnets du monde. Merci beaucoup de nous avoir encore accompagnés aujourd'hui dans nos vadrouilles. Vous pouvez retrouver le podcast sur notre page des carnets du monde sur Europe 1.
www.europe1.fr. Merci à Marc Fréjean qui a réalisé cette émission, à Florence Gimalac qui m'a aidé à la préparer. Et Nicolas Carreau est à nouveau en studio. La voix est libre, c'est dans quelques minutes. Quel est le programme, Nicolas ?
On va parler ésotérisme avec Jacques Ravenne et Eric Giacometti, les Dan Brand français. Mm-hmm. Ils sont là pour leur nouveau roman. Et puis on ira visiter la bibliothèque du camarade Frédéric Tadéhic.
Oh, très bien. À tout de suite, Nicolas. Et quant à nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.